Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Jean, chapitre 7. Jean, chapitre 7, verset 38. Et je vais voir une première partie ce matin sur la plénitude de l'Esprit. On continue sur le Saint-Esprit, sur ce sujet important de la parole de Dieu, du Nouveau Testament également. Jean 7, verset 38. Jésus dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive, des fleuves d'eau vive, couleront de son sein. Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alléluia. Jésus dit, celui qui croit en moi, croyez-vous en Jésus ? Je n'ai pas posé la question d'une manière, je dirais, un peu floue. C'est précis. Je n'ai pas dit « croyez-vous en Dieu ?» Parce que la terminologie « Dieu », ça veut tout dire et rien dire. Croyez-vous, non plus, je ne vous ai pas dit « croyez-vous dans la religion, quelle qu'elle soit, mettez le nom que vous voulez, évangile, protestante, catholique, ouais, croyez-vous dans une religion ?» Non, ce n'est pas du tout ma question. Je vous ai posé la question « croyez-vous en Jésus-Christ ?» Et le mot « croire » n'a rien à voir avec l'aspect intellectuel. C'est-à-dire là, je crois ici, oui, dans ma tête. Non, 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 non. Croire, c'est entrer dans ce que Christ a mis en réserve par sa grâce, l'œuvre accomplie à la croix, pour nous. Ce n'est pas intellect. L'intellect qu'il a, qui pense, qui dit, qui croit dans une certaine mesure, mais qui... malheureusement, n'a pas d'engagement de cœur. Croire. Jésus dit, celui qui croit en moi, celui qui va mettre sa confiance en moi, celui qui me reçoit comme sauveur et seigneur personnel dans sa vie. Alors, il dit, entre autres, que des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et ça, c'est une promesse extraordinaire. Ici, le contexte fait allusion à cette effusion, au baptême dans le Saint-Esprit qui se reçoit après avoir cru en Jésus-Christ. On comprend qu'il dit « celui qui croit en moi ». Il y a des étapes. Mais en même temps, et je vais revenir, ça implique également le fait de connaître Jésus. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres, alors communément le livre des Actes des Apôtres, c'est littéralement, c'est pas le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre des Actes du Saint-Esprit par le moyen des apôtres, pour remettre tout à sa place. Parce que les apôtres, sans le Saint-Esprit, ils n'auraient pas pu faire grand-chose. Comme l'Église aujourd'hui, sans la puissance du Saint-Esprit, parce que Jésus, je vous rappelle, qu'il est à la droite du Père, il n'est pas sur la terre, Jésus. Il ne faut pas se tromper, la Bible est claire. Il faut rester attaché à la doctrine biblique. Il ne faut pas commencer à dire tout et n'importe quoi en fonction de ce que je lis sur Internet. Non, la Bible est sûre, certaine. Et donc, elle nous rappelle que Jésus est reparti à la droite du Père, dans le ciel, et que c'est à partir de ce moment-là, et le texte le dit ici, puisque Jésus le souligne, l'Esprit n'était pas encore là, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. À partir du moment où Jésus est reparti à la droite du Père, après avoir accompli son œuvre, son ministère, la mission qui était la sienne pour le salut de l'humanité qui croirait en lui, à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit a été envoyé. Et la personne divine fait partie de la Trinité qui est au milieu de l'Église. C'est le Saint-Esprit. Alors souvent on dit, oui, Jésus est là. Oui, par son esprit. car si je reste sur la notion de la Trinité, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu. Et donc, il y a dans le livre des actes du Saint-Esprit par le moyen de l'Église naissante, par le moyen donc des croyants, de ceux qui croient en Jésus, la réalité de la plénitude du Saint-Esprit. Chaque page, chaque ligne du livre des Actes des Apôtres, je reprends le terme que nous connaissons, chaque page, chaque ligne du livre des Actes des Apôtres, avec l'aide du Saint-Esprit, sont remplies de la plénitude du Saint-Esprit. Il n'y a pas une ligne où je ne vois pas la plénitude du Saint-Esprit. Pas une. Et j'aimerais que nous réalisions en ce début d'année 2018, car je me permets de rappeler qu'aujourd'hui c'est le premier dimanche de l'année 2018, que tout au long de cette année 2018, nous puissions agroyer, rajouter, voire 1, 2, 3 points de suspension, chapitre au livre des actes du Saint-Esprit par votre moyen, parce que vous allez croire en Jésus, pas seulement avec votre tête, pas seulement dans le cadre d'une tradition évangélique, pentecôtiste, assemblée de Dieu. Je ne vous prêche pas les assemblées de Dieu, je vous prêche Jésus. Une église qui choisit de vivre et de continuer de vivre selon les principes énoncés, soulignés dans le livre des Actes des Apôtres, c'est une église vivante. Non pas une église de tradition, non pas une église qui s'éteindrait, non pas une église qui survit tant bien que mal, qui reste debout tant bien que mal. Non, c'est une église qui vit, avec des hommes et des femmes qui la composent et qui vivent de la vie pleine et entière de l'Esprit. Des hommes et des femmes qui aiment l'Église, qui ne parlent pas de l'Église comme étant quelque chose de dépassé, d'obsolète, de secondaire, quelque chose qui n'a pas lieu d'être, où on vient de temps en temps quand on en a envie. Non! L'Église est un lieu voulu de Dieu et dans le livre des Actes des Apôtres, je remarque que l'Église qui est en train de naître par la puissance du Saint-Esprit est une Église qui va se développer, qui va grandir, qui va avancer, certes, quelques années plus tard. Le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, va écrire des lettres pour interpeller les églises du premier siècle, pour leur dire « voilà ce que je vous reproche, et en même temps voilà ce que j'apprécie, et en même temps voilà ce que j'attends de vous ». Et quand je lis les 7 lettres de Christ aux églises d'Asie du premier siècle, qui nous parlent aujourd'hui sur plein de points, c'est aussi l'histoire de l'Église jusqu'à cette fin des temps dans lesquels nous sommes. Je me rends compte que du début jusqu'à la fin, il y a un fil conducteur, c'est celui de la plénitude du Saint-Esprit. L'expression « rempli du Saint-Esprit » ou « plein du Saint-Esprit », on la retrouve 10 fois. Dans le livre des Actes des Apôtres. Vous allez dire, c'est pas beaucoup. Si, c'est beaucoup. 10 fois. Certes, l'expression que j'emploie ce matin, plénitude du Saint-Esprit, elle ne s'y trouve pas dans la Bible. Mais elle est employée pour parler du fait d'être rempli continuellement du Saint-Esprit. Le mot plénitude, on sait ce que ça veut dire. Être rempli de, être gouverné par, être dominé par le Saint-Esprit. Donc, étant rempli du Saint-Esprit, étant baptisé dans le Saint-Esprit, nous sommes amenés à être conduits et animés dans nos pensées, dans nos attitudes, dans nos paroles, dans nos actions, selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. La question que je dois me poser ce matin, et je dresse un état des lieux, en dressant un bilan, j'en ai parlé en fin d'année, j'en reparle en ce début d'année 2018, je peux encore me le permettre, c'est le temps des bilans. Les trésoriers savent ça, bilan financier. Tant des bilans. Et la question que j'aimerais que l'on se pose, et celle-ci, quel est l'état des lieux que je peux faire au niveau de mon cœur, de mon âme, de mon esprit, en un seul mot, de ma vie chrétienne? Où j'en suis? Qu'est-ce que je compte faire de ma vie chrétienne? Quels sont mes projets pour l'année 2018? Est-ce que je vais recommencer à vivre une nouvelle année comme j'ai vécu l'année qui s'est terminée? Ou est-ce que j'ai une ambition? Est-ce que je suis motivé? Est-ce que j'ai envie, moi aussi, d'être partie prenante avec la maison de Dieu, l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu? Ou est-ce que je vais continuer comme cela, à vivoter spirituellement, à venir de temps en temps, à écouter un petit peu le prédicateur qui s'évertue de prêcher la parole de Dieu, même qu'il n'a pas beaucoup de voix, c'est pas bien grave, on va quand même un petit peu l'écouter de temps en temps, on va venir de temps en temps pour dire que quand même on est là. Pardonnez-moi d'être aussi direct. Mais tant mieux que je sois aussi direct. Parce qu'après tout, je pourrais dire, on est formidable, on est merveilleux, tout se passe bien, alléluia, c'est formidable, l'œuvre de Groyer est magnifique. Oui, elle est magnifique. Oui, elle a avancé. Oui, Dieu a des projets. Oui, Dieu l'a béni. C'est pas mon église, c'est l'église de Jésus-Christ. Mais, je le dis souvent, et je le répéterai encore, l'église, mes frères et sœurs, locale, je parle pas de celle d'Albi, on n'est pas à Albi, ni de Castres, on n'est pas à Castres, ni à Toulouse, je suis pas à Toulouse. Que Dieu bénisse mes collègues et nos frères et sœurs de ces églises qui ont aussi des défis à relever. Mais mes frères et sœurs, je parle de Groyer. Je parle de Groyer, je parle de cette ville d'un peu plus de 12 000 habitants. Rien que la ville. Après, il y a l'intercommunalité. Mais mes frères et sœurs, qu'est-ce que j'ai à cœur? Car l'église de Groyer, elle sera ce que je veux qu'elle soit. Tous les prédicateurs, tous les pasteurs remplis du Saint-Esprit peuvent transmettre une pensée, une idée, un projet, une vision, mais si on n'y entre pas, il pourra toujours la transmettre, la communiquer, que ce soit aux jeunes, aux enfants, aux ados, aux personnes âgées, à toute l'Église. Si personne n'y entre, ou s'il n'y en a que très peu qui entrent, ça va être long, surtout sur la fin. C'est un peu d'humour. Quel est l'état de mes sentiments spirituels? Le désir du Saint-Esprit qui nous ramène vers la parole de Dieu continuellement, il nous rappelle tout ce qui a été dit, il nous rappelle ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit ne vient pas pour parler de lui, hein, il vient pour parler de Jésus. Il nous conduit vers le Père, il nous conduit vers le ciel, il nous conduit dans l'obéissance. Je vais parler dans les dimanches qui viennent de l'obéissance pour parler de la foi, parce que s'il n'y a pas l'obéissance, il ne peut pas y avoir la foi. Hein. ne viens pas me raconter des histoires, sinon vous êtes, vous n'avez pas la même Bible que la mienne. L'obéissance, j'en parlerai avec la foi. Mais le Saint-Esprit nous conduit dans ce chemin-là. Le désir du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, c'est que nous ayons en nous, Philippiens chapitre 2, que nous ayons en nous les sentiments de Jésus-Christ. Il y a une autre traduction, au lieu du mot « sentiment », peut-être vous avez une autre traduction biblique, il y a marqué « des pensées ». Tout ce qui anime mon être intérieur. Il veut que nous ayons en nous, d'une manière pleine et abondante, les sentiments de Jésus-Christ. Alléluia. Et par conséquent, que nous ayons ce même sentiment. Philippiens chapitre 4, je vous exhorte donc, dit Paul, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, douceur, patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Pour être dans ce sentiment-là, les uns envers les autres, donc envers l'Église, pour que l'Église progresse. S'il n'y a pas ces éléments spirituels, l'Église ne peut pas progresser. Elle se bloque. Il y a un grain de sable. Mais pour qu'il y ait tous ces éléments spirituels, mes frères et sœurs, il faut que nous soyons les uns et les autres, après avoir cru ou en croyant toujours, bien sûr en Jésus-Christ, dans la plénitude de l'Esprit. Je reviens sur le texte de tout à l'heure. Jésus dit, celui qui croit en moi, pas celui qui croira, hein, c'est du présent. Celui qui croit en moi, donc c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est pas demain. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, couleront de sa vie intérieure. Qu'est-ce qu'une eau vive ? Je n'ai pas dit qu'est-ce que de l'eau de vie ? Qu'est-ce que l'eau vive ? L'eau vive, moi je la traduis ainsi, c'est une eau qui est en perpétuel mouvement. Je prends l'exemple de l'eau d'une rivière qui a constamment, à un endroit bien précis, un courant suffisamment important pour que tout au long de l'année, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, elle ne stagne jamais. C'est-à-dire que c'est une eau qui vient de l'intérieur. C'est une eau qui vient de sources souterraines. De sources qui ne se tarissent pas, quelle que soit la période de l'année. Vous avez des endroits en France où vous avez des sources qui ne tarissent jamais, malgré la sécheresse. Malgré le déficit d'hydrométrie qu'il peut y avoir dans certaines régions de France, et le Tarn en fait partie. Vous avez des endroits où il y a constamment de l'eau. Constamment. Ça vient de l'intérieur. Et en plus, ce genre d'eau, non seulement elle est fraîche, mais elle est bonne. Bon, sauf quand elle arrive à la surface, après elle attrape les impuretés. Mais elle a cette particularité, c'est qu'elle va amener le lieu qu'elle remplit à ne jamais stagner, à être toujours dans une eau rafraîchie, pure, belle, transparente, propre, agréable. La parole de Dieu va souvent insister là-dessus, sur cette expression « eau vive ». parce que ça parle de fraîcheur, ça parle de vie, ça parle de pureté, j'insiste, ça parle de clairvoyance, ça parle d'un esprit libre, ça parle de quelqu'un qui est léger, mais pas sur le plan spirituel, léger dans son cœur, dans le sens où il se décharge toujours sur le Seigneur pour être continuellement renouvelé dans la plénitude de la vie de l'Esprit que Dieu nous donne merveilleusement. Et il y a un texte qui a attiré toute mon attention, c'est quand Jésus, qui attire toujours mon attention, c'est quand Jésus se retrouve face à face avec la femme samaritaine. Nous avons lu Jean chapitre 7, il suffit de revenir un peu en arrière, Jean chapitre 4. Et Jésus va s'entretenir avec cette femme. Ouais. Et Jésus va lui dire, écoute-moi bien, si tu connaissais le don de Dieu, Jésus parle de lui. C'est lui le don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit donne-moi à boire, bah tu lui aurais toi-même demandé à boire. C'est toi qui lui aurais demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. On retrouve l'expression. Dans la bouche de Jésus, une fois de plus. Il t'aurait donné de l'eau vive. En définitive, quand on regarde le contexte de cette femme samaritaine, cette femme est dans une situation, un contexte de stagnation dans sa vie. Ça sent mauvais. Il n'y a pas de pureté. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas d'épanouissement. Il y a une vie rétrécie, une vie morte, une vie qui remue mais qui n'apporte rien. Le Seigneur lui dit, « Femme, si tu me connaissais, en définitive, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, si tu croyais en moi, si tu mettais ta foi en moi, Jésus, la Fils de Dieu, alors c'est toi qui prendrais conscience maintenant que tu as soif d'une plénitude intérieure. Là, ta vie, elle peut changer, elle peut prendre une autre dynamique, une autre direction, une autre position, une autre vision. Si tu me connaissais, et pardonnez du peu, il y a parfois des croyants qui ne connaissent plus Jésus comme au premier temps. Il y a bien une chose qu'il faut faire individuellement, jour après jour, de chaque année, jusqu'à mon dernier souffle, votre dernier souffle, car à un moment donné, il faudra bien que vous quittiez cette terre. C'est que chaque instant de votre vie, vous preniez le temps de dire « Seigneur, ma vie peut s'arrêter tout à l'heure. Alors ce que je veux, c'est d'être rempli de ce qui vient du ciel. Parce que, après tout, y a-t-il quelque chose de meilleur que cela ? Même Pierre, alors que Jésus dit aux disciples qui sont encore là, quelques-uns sont partis parce qu'ils n'ont pas supporté ce que Jésus a dit, ils n'ont rien compris d'ailleurs. Où ils n'ont pas voulu comprendre. Et Jésus se tourne vers les disciples restants et leur dit, mais vous voulez pas vous aussi partir? Vous pouvez, vous êtes libres. Je le dis à quiconque qui est dans cette église, hein. Vous pouvez partir si vous voulez, vous êtes libres. Je ne suis pas un gourou, ce n'est pas une secte ici, hein, c'est une église. Mais je tiens à préciser que Pierre a eu la bonne réaction. Il a dit, mais Seigneur, Seigneur, à qui d'autre irions-nous qu'à toi ? À qui d'autre ? Mais à qui d'autre ? En quelque sorte, Pierre qui a un passé, Pierre qui a un contexte religieux derrière lui, il est en train de dire, mais Jésus, depuis que nous te connaissons, notre vie n'est plus la même. notre joie est réelle. On te voit manifester de l'amour. On te voit manifester de la compassion. On te voit manifester de la miséricorde. On te voit guérir les malades. On te voit donner de l'espérance à ceux qui sont désespérés. On te voit rendre libres les opprimés. On te voit faire éclater ta lumière là, dans les pauvres ténèbres de ces gens. Mais à qui d'autre irions-nous? À qui? Il n'y a rien de plus terrible au regard de Dieu et au cœur de Dieu, pas seulement au regard et au cœur d'un serviteur de Dieu, d'un pasteur ou de chrétien, mais au cœur de Dieu. Quand quelqu'un a marché avec Jésus, avec Dieu, depuis le moment de sa nouvelle naissance, avec un cœur entier, un cœur dévoué, un cœur offert, ouvert, et d'un seul coup, paf, ce cœur-là se rétrécit, se ferme, se verrouille, et même il retourne dans le péché d'avant, et même il retourne dans l'idolâtrie d'avant, il retourne dans la désobéissance d'avant, et ils disent, c'est pas grave. Moi, je me pose la question, y a-t-il eu vraiment une conversion à la base? Je le dis solennellement. Y a-t-il eu vraiment une nouvelle naissance à la base? Y a-t-il eu vraiment quelqu'un là qui vraiment a fait la démarche d'accepter Jésus, de croire en Jésus et de se laisser remplir de la plénitude de l'Esprit? J'en doute. Comment on peut lâcher quelqu'un qui nous aime? Comment on peut lâcher quelqu'un, et je parle du Saint-Esprit, qui est si merveilleux et si grand? Comment on peut donner la place à autre chose qu'à Dieu, qui est un grand Dieu plein d'amour? Mais comment c'est possible? C'est une folie. Pierre a dit, je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Amen. Tous peuvent te laisser tomber. Tous. Moi, je ne te laisserai jamais tomber, Jésus. Parce que de toi viennent les paroles qui donnent la vie en abondance, la vie de plénitude, la vie de l'esprit, la vie d'en haut, une vie qui vaut la peine d'être vécue tant qu'on a le souffle de vie sur cette terre. Alléluia! Ma plus grande joie, c'est de servir Dieu. Ma plus grande joie, c'est de servir Jésus. Ah, ça me fatigue souvent. Même mon médecin de famille, ces derniers jours, a dit à mon épouse, il en fait un peu trop, hein. Je suis comme ça. C'est tout ou rien. Je suis entier dans ce que je suis. Depuis que Jésus a changé ma vie, je suis entier dans ce que je suis. Dans ce que je crois, dernièrement, lors du baptême d'Inès, il y a 15 jours, à peu près en arrière, une personne qui ne fait pas partie du guide, qui n'est pas encore à Jésus, est venue me voir. Elle me dit, monsieur le pasteur, je voudrais vous dire quelque chose. Vous êtes convaincant et convaincu. C'est pas moi qui lui ai donné un papier pour lire cela. Il l'a ressenti. Alors je suis pas là pour parler de moi, mais je suis là pour parler de vous et de moi. Parce que c'est qui, vous et moi, si ce n'est l'église locale? C'est qui, vous et moi, si ce n'est des lumières qui sont appelées à briller dans ce monde de perversité? C'est qui, vous et moi, si ce n'est des enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ du royaume des cieux? Et cette femme, la Samaritaine, elle va lui dire, Seigneur, mais donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Et le Seigneur aurait pu lui dire, écoute femme, tu viendras quand même puiser ici parce que tu auras besoin de te désaltérer, de te réhydrater, tu auras besoin de cette eau du puits de Jacob pour vivre physiquement. Et moi je te propose autre chose, sur le plan spirituel. Et pour que tu le reçoives, Jésus va mettre cette femme devant ses responsabilités et va lui dire, écoute femme, tu veux rentrer dans la plénitude, tu veux demeurer dans la plénitude, tu veux recevoir cette eau vive qui va désaltérer le plus profond de ton âme, tu n'as qu'une seule chose à faire. Je t'écoute Jésus, appelle ton mari et viens ici. Oh une messe, alors celle-ci elle s'y attendait pas, hein. Appelle ton mari. Et puis je vais te bénir, toi et ton mari. Mais comme cette femme vient de prendre conscience que sa vie est sèche, sans espoir, malheureuse, triste, écrasée, il n'y a pas de plénitude, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Il y a une religion samaritaine. Il y a le regard du mont Garizim, d'un temple en plus qui est complètement détruit à ce moment-là. Hein, il faut quand même le préciser, il n'y a que des ruines. Terrible de vivre sur des ruines. Hein. Il y a des gens spirituellement, ils vivent sur des ruines. Mais cette femme, elle va être honnête, elle va dire, mais Seigneur, c'est un prophète le Seigneur Jésus, voit tout, c'est tout, c'est Jésus, c'est Dieu. Elle lui dit, mais j'ai pas de mari. Ah bon? T'as pas de mari? Mais c'est vrai, tu as eu raison de dire j'ai pas de mari, tu es honnête. Ça, c'est un premier point. Jésus aime l'honnêteté. Le monde aime la malhonnêteté. Jésus aime la vérité. Le monde aime le mensonge. Jésus est la lumière. Le monde, c'est malheureusement les ténèbres. Et lui dit, tu as eu 5 maris, elle a été mariée 5 fois. Ben, dis donc, elle les a cumulés. Hein. Pourquoi, votre avis? Parce qu'elle cherchait le bonheur. Elle cherchait le mari idéal, le mari parfait, sans défaut. Impeccable. Et celui avec qui elle vit, c'est même pas son mari, elle n'est même pas mariée, elle vit en concubinage. Elle vit maritalement, elle vit paxée. Je rajoute. Le Seigneur ne parle pas de pax, hein, il parle de mariage. Une chrétienne, il n'y a pas longtemps, dans une des églises, un collègue vient me voir et me dit, qu'est-ce que tu en penses, Laurent ? Il me dit, elle est venue vers moi, une femme qui vient d'arriver, et elle me dit, elle est venue vers moi, elle me dit, mais pasteur, de toute manière, je suis en règle avec Dieu, je suis paxé. J'ai dit, qu'est-ce que tu lui as répondu? Il m'a dit, mais je lui ai répondu que non. Ben, j'ai dit, tu as bien répondu. Elle n'a pas besoin d'une étude biblique, qu'elle aille voir ce qui est écrit dans la Bible. Et Jésus dit, tu as dû vivre. Et cette femme, elle sait que là, ça peut changer. Et elle va changer. Elle va changer. Elle va changer. Sa vie va changer. La plénitude va descendre. Elle descend tellement que cette femme, je pense qu'elle a régularisé sa situation, bien sûr, c'est normal, il faut obéir à Dieu. Et en même temps, la plénitude est là. L'eau vive est là, au point qu'elle ne peut pas contenir cette eau vive et elle va la transmettre dans toute la ville de Sichar. Venez voir celui qui m'a dit tatati, tatata, elle rend témoignage. Venez voir, venez, il a transformé mon cœur, il m'a rempli d'une vie nouvelle, il m'a rempli d'une vie abondante, il m'a rempli d'une plénitude extraordinaire. J'ai envie de le dire et de le dire et de le dire et de le dire encore. Gloire à Dieu pour les chrétiens qui le disent et qui le disent et qui le montrent. Pas des chrétiens qui sont là, oh, je suis chrétien, mais il ne faut pas que je le dise. Oh, quelle honte si on sait que je suis chrétien. Mais depuis quand on a honte d'être chrétien? Moi, j'aurais plutôt honte d'être un pécheur, de tromper ma femme, de mentir aux uns et aux autres. Là, j'aurais honte. Mais d'être un chrétien, un homme qui a une éthique, une femme, un homme qui a une moralité, qui sait faire les choses comme il faut les faire, sérieusement et honnêtement, mais quel bonheur! La France a besoin de tels hommes et de telles femmes. Et je vais terminer. Parce que, je vais essayer d'être assez rapide, parce que quand il n'y a pas tous ces ingrédients, donc il y a une divergence. Et s'il y a une divergence, c'est que l'Esprit de Dieu n'a pas totalement la place, selon la volonté de Dieu, dans vos cœurs et dans vos vies, pour vous restaurer, pour vous rafraîchir, pour vous ramener, pour qu'en ce début d'année, vous soyez dans la plénitude. Être plein de la plénitude de l'Esprit, ça n'empêche pas des combats et des luttes, hein. Mais quand il n'y a pas la plénitude de l'Esprit, c'est quoi qui prend le dessus? Qu'est-ce que vous êtes sage? C'est l'Église la plus sage de France. Qu'est-ce qui prend le dessus? La chair. Et alors quand la chair reprend le dessus, il y a plein de sentiments qui vont se bousculer, qui vont se manifester. Je les cite très rapidement, je ne m'y étendrai pas. Vous avez les opportunistes. Ils viennent à l'Église quand ça... Comment dire ça? Ou ils viennent à la présence de Dieu, dirais-je, quand ils sont dans le besoin. Voilà. Quand ils sont dans le besoin. Vous avez les intéressés, alors que dans la présence de Dieu, je vais y venir, quand je suis rempli de l'Esprit de Dieu, j'y viens continuellement. Hein. Même dans ma voiture, alléluia, ça chante, ça loue Dieu, Juste un témoignage, je roule beaucoup, hein, et je croise beaucoup de chrétiens, surtout quand j'ai une voiture comme celle-ci, la couleur, que, alors elle passe partout, celle-ci, dès que quelqu'un voit une voiture rouge, le pasteur, c'est pas toujours moi, hein. Mais je roule, puis quand je suis avec mon épouse, je parle avec mon épouse, mais quand je suis seul, je bénis Dieu, je loue Dieu. Et je crois que ça m'est arrivé plusieurs fois, ça. Les chrétiens me disent, pasteur, je vous ai croisé dans votre voiture, vous étiez en train de remuer. Eh bien, j'ai dit, oui, alléluia. Croyez que j'étais en train de chasser une mouche, je ne sais pas quoi. Bénis Dieu. Pas si vous l'avez déjà raconté, juste, je ne voulais pas rallonger, mais c'était à Montpellier. C'était en plein été, j'étais à un feu rouge, j'attendais qu'il passe bien sûr au vert, tranquillement, et j'avais de la musique chrétienne, et c'était des chants que je connaissais, et donc je les chantais avec. En plus, quand je chante avec quelqu'un comme ça, j'ai l'impression que je chante bien juste, et c'est très agréable. Donc, je chantais, ça vous le fait vous aussi, hein? Et oui, voilà. Et je chantais, mais j'avais les fenêtres ouvertes. Mais j'étais tellement bien, je chantais « Gloire, gloire à Dieu !» Enfin bref, je ne sais plus ce que c'était comme chant. Et d'un seul coup, j'arrête, je sens qu'on me regarde. Complètement oublié, moi. Et je tourne la tête et je vois les gens. Ça leur a mis un coup, hein. Si j'avais chanté, je sais pas moi, une chanson du monde, peut-être m'aurait-il regardé comme ça aussi, mais... Oh, il est bizarre. Puis moi... Être toujours dans la présence de Dieu. Les intéressés comme Jacob, si tu me donnes, alors je te donnerai. Donne-moi et je te donnerai. Et je te donnerai. Ça, ça dévoile un état spirituel qui n'est pas dans la plénitude. Bien que Jacob, Dieu va quand même le bénir. Mais enfin, c'est pas la bonne attitude. Donne-moi et je te donnerai. Si tu fais ça, je te suivrai. Les mécontents. Ah, les mécontents. Il n'y en a pas à grouiller des mécontents. Ils sont jamais contents de rien. Jamais. Jamais. Mais Paul dira, parce qu'il est rempli de l'esprit, ben j'ai appris, Philippiens 4, j'ai appris à être content. Ça s'apprend. Mais bien aimés frères et sœurs, vous qui êtes jeunes et puis les plus âgés, je tiens à vous rappeler que ça s'apprend. Vous êtes à l'école de Dieu pour apprendre. Ça s'apprend à être content. Dans l'état où on se trouve. Pourtant, ce n'est pas toujours évident, je vous l'accorde. Et moi le premier. Pas toujours facile. Mais ça s'apprend. Apprendre à être content. Je suis content de ce que le Seigneur est en train de faire en ce moment à Groyer. Vous êtes content? Je suis content. Paul le dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre. Dieu m'a appris. Il y a des contrariétés, il y a des combats, il y a des difficultés. Et même, je reviens à Jacob, à un moment donné, alors que les fils reviennent, après avoir rencontré Joseph, bref, il y a là un moment difficile pour eux. Mais Jacob va apprendre qu'il va falloir également amener un autre de ses enfants. Oh là là! Pour lui, il a toujours perdu Joseph, il va falloir en donner un autre. Mais il dit, mais c'est pas possible, toutes choses sont contre moi. Je paraphrase ce que dit Jacob, Genèse 42. J'ai déjà perdu Joseph, je risque de perdre Benjamin. Et puis, oh, mais où on va là? Tout est contre moi. Mais quand il va décéder, Jacob, et qu'il va bénir ses 12 enfants, les 12 tribus d'Israël, il va à un moment donné dire ceci, 48 verset 15, Genèse, « Dieu a toujours été mon berger, et il m'a délivré de tout mal. » C'est ce qu'il est en train de dire. Apprendre et se contenter. Puis, il y a les critiques. Ah, ça arrive les critiques? Et ils sont toujours en train de critiquer au milieu du peuple d'Israël. Et ils sont contents de rien. Ils murmurent. Oh là 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 là, si on avait su. Quand les 10 espions, les 12, pardonnez-moi, ils reviennent du pays de Canaan, ils font leur rapport, les 10, et leur rapport est négatif. Il est désespérant, il est décourageant. Bref, et tout le peuple d'Israël, ah, vous voyez, il faut pas y aller, manani, manana, et on l'avait dit, il fallait rester en Égypte, on était mieux, et puis patati, et patata, et allez, on recommence, et on recommence, et on recommence. Mais c'est fatigant! Et heureusement qu'il y a au milieu du peuple deux hommes qui sont remplis de l'esprit. Vous voyez la différence entre ceux qui ne le sont pas et ceux qui le sont. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les deux en question, c'est Josué et Caleb, qui vont dire non, ne les écoutez pas. Non, c'est un pays formidable. Dieu nous l'a réservé, Dieu va nous bénir, Dieu va nous accorder quelque chose d'extraordinaire. Et là, eh bien, il va y avoir ainsi une autre manière de faire. Seulement, le peuple d'Israël n'a pas voulu les suivre. Alors, ils sont tous morts dans le désert. Jusqu'à ce que la deuxième génération grandisse et puisse entrer, eux, avec Josué et Caleb, qui font partie de la première, c'est les seuls à entrer dans le pays de Canaan. Même Moïse n'y entre pas, à cause de sa désobéissance. Mes frères et sœurs, être remplis de l'Esprit, c'est ressembler à Caleb et Josué. Et puis, il y a ceux qui sont abattus. Mais le Seigneur veut vous renouveler par la plénitude de l'Esprit. Il suffit de vous jeter à ses pieds, comme l'a fait Pierre, Luc chapitre 5. Et il a dit, Seigneur, retire-toi de moi, je réalise ma folie, je me jette à tes pieds. Mais Jésus lui dit, dorénavant, désormais, tu vas être un pécheur d'homme. Maintenant, tu es un homme qui est prêt à entrer dans cette plénitude de la vie de Dieu, de l'Esprit de Dieu. C'est un tournant décisif. Et puis, je termine avec ce dernier point, ceux qui sont trop assurés. Et pourtant, ils ne sont pas dans la plénitude de l'Esprit, il suffit d'y entrer. Celui qui croit en moi, des eaux vives couleront de son sein. Alors, il y a possibilité d'être assuré par Christ, par l'Esprit de Dieu, pas par soi-même. On ne peut pas compter sur nos propres forces, sur nos capacités humaines et donner des ordres au Seigneur comme Pierre. Matthieu 26, verset 34, Pierre, Seigneur quand même. Pierre. Il compte sur ses capacités. Ah, Seigneur, tu peux compter sur moi. Quand bien même tous vont te renier, te rejeter, moi je suis là, hein, je suis là. Tu peux... Attention, ça c'est de la présomption. C'est être présomptueux. Ça c'est nos propres forces, c'est la chair. On veut tellement faire bien, on veut tellement être agréable. Tu... Ouais, Seigneur, tu peux compter sur moi. Non, Seigneur, tu peux compter sur moi si tu es avec moi. Seigneur, tu peux compter sur moi si je suis toujours rempli de l'Esprit. Seigneur, j'ai besoin de ton Esprit, j'ai besoin de l'onction de ton Esprit, j'ai besoin de la visitation de ton Esprit, j'ai besoin de respirer, de sentir le parfum de l'Esprit, j'ai besoin de parler selon ton Esprit. Alléluia, j'ai besoin de vivre les dons spirituels, j'ai besoin d'entrer dans tes plans par la puissance du Saint-Esprit, j'ai besoin de tout cela. Le reste, ma chair, tout ça, je la mets de côté parce que sans toi, Jésus, sans ton Esprit, je ne peux, je ne pourrai jamais rien faire. Et Pierre va la prendre à ses dépens, parce que Jésus lui dit, bien, tu vas me renier. Hein. Et il va le renier. Et là, il va apprendre que quand on se met en dehors de la réalité de cette plénitude, ça devient catastrophique. On en a besoin. J'en parlerai encore une prochaine fois avec une autre image, mais que Dieu nous aide ce matin.